Radio France International.
Et Paris, RFI,
$1,000.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde. Ce soir avec, pour la rédaction persane, Azadeh Valla. Pour la mort de et le décès de Nasser Nagmoetei, qui est un grand du cinéma iranien des années 70. Bonsoir à vous. Laura Martel, de la rédaction anglophone.
Good evening.
À propos du Kenya et les premières inculpations dans un scandale de corruption qui s'élève à plusieurs dizaines de millions de dollars. Et Silvano Mendes, de la rédaction brésilienne.
Boa noite.
Car les grèves au Brésil réveillent les fantômes de la dictature. Bonsoir donc à vous tous. Avant tout cela, intéressons-nous à l'une des actualités de la semaine, à savoir la naturalisation française d'un migrant malien. Mesure prise après le courage dont il a fait preuve en escaladant un immeuble de 4 étages pour sauver un enfant, Mamoudou Gassama a été reçu par le président de la République qui a ordonné sa régularisation immédiate avant de signer un engagement de plusieurs mois chez les sapeurs-pompiers de Paris. Alors Silvano Mendes, à la rédaction brésilienne, quels sont les commentaires qui ont retenu votre attention quant à cette décision de donner si rapidement à Mamoudou Gassama la nationalité française?
Bon, d'abord, nous avons constaté qu'il y a eu rapidement beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, puisque les images ont fait le tour du web et aussi des médias au Brésil également. Très vite, certains internautes se posaient la question sur les critères pour avoir la nationalité en France, mais aussi si c'était une décision juste, surtout vis-à-vis de tous ceux qui attendent depuis des années, mais aussi si Mamoudou Gassama méritait cette nationalité. Du coup, cela a ouvert un autre débat, notamment au Brésil, on parlait beaucoup de ça, sur la question du mérite. Pourquoi on doit voir un passeport comme quelque chose dont on mérite, et comme une sorte de prix? Donc il y a eu plusieurs questions là-dessus, notamment sur les réseaux sociaux.
Laura Martel, justement, du côté des organisations, des associations de défense des migrants, cette naturalisation express de Mamoudou Gassama passe finalement assez mal.
Alors bien sûr, ces ONG ont d'abord salué le geste de Mamoudou Gassama, elles se sont réjouies pour lui de cette naturalisation. En revanche, sur le principe, effectivement, elles ont été très critiques quant à la réaction des autorités. Le secrétaire général de la CIMADE a ainsi dénoncé une récupération politique éhontée du président Macron, une surmédiatisation au service d'un simple affichage politique, a-t-il dit. Le groupe d'information de soutien aux immigrés a lui parlé d'hypocrisie, de cynisme entre cette bienveillance affiché d'un côté pour un migrant soudainement porté au nu et le contraste avec la politique menée justement par le gouvernement envers les migrants et les sans-papiers. Une politique répressive qui, je cite, broie des dizaines de milliers de personnes. Et on pense là notamment au projet de loi asile-immigration qui doit d'ailleurs passer ce mercredi devant la commission des lois du Sénat en procédure accélérée à la demande du gouvernement après des débats déjà houleux à l'Assemblée. Un texte contesté donc et jugé justement très répressif par ces ONG, et notamment à cause, par exemple, des délais d'instruction de demandes d'asile qui sont réduits quand ceux des délais de rétention sont, eux, prorogés de 45 à 90 jours. Et certains militants, d'ailleurs, ont illustré ce sentiment de deux poids, deux mesures, en mettant une photo de Mamoudou Gassama qui escalade donc cet immeuble, en parallèle d'une photo de migrants qui escaladent, eux, les barrières entre le Maroc et les enclaves espagnoles, de Ceuta et Melilla, en soulignant que la performance physique est loin d'être valorisée de la même façon.
Azadeh Valla, cet acte altruiste du jeune Malien a donné lieu à une large couverture en Iran et sur les réseaux sociaux iraniens aussi.
Oui, la vidéo de son exploit a fait le tour des réseaux sociaux. Les journaux papier, les sites web ont publié sa photo et le film de son escalade. Ils ont raconté l'événement. La plupart d'entre eux l'ont appelé et surnommé, même dans le titre de leur article, Spiderman. Un site d'information a publié une image de Spiderman pour parler de Mamoudou Gassama. Tous ont apprécié son courage et ont qualifié son acte de dévouement, d'héroïsme.
Également, le fait que, selon eux, selon ces médias, cet acte est une manifestation de l'amour désintéressé de ce jeune homme envers autrui et de son attachement aux enfants. Vous avez également parlé sur votre antenne de la perspective, de la polémique sur la politique migratoire de la France également.
Oui, nous avons évidemment couvert cet événement à la fois dans sa dimension événementielle et aussi politique lorsqu'il a donné lieu à une certaine polémique sur la politique migratoire de la France. Et c'est cet aspect aspects qui n'avaient pas été traités par les médias en France.
Laurent Martel, autre chose, les réactions au Mali, quelles ont-elles été, celles que vous avez pu constater avec vos correspondants notamment?
Écoutez, une multitude de Maliens ont salué bien sûr le geste de Mamoudou Gassama, et a commencé d'ailleurs par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a souligné sur Twitter qu'en sauvant une vie au péril de la sienne, eh bien Mamoudou Gassama s'est montré un digne et courageux fils du Mali. Alors ce commentaire du président n'est pas passé très bien auprès de tout le monde. Certains de ses concitoyens ont souligné que si Mamoudou Gassama était en situation irrégulière en France, eh bien c'était bien par manque d'opportunités au Mali. Et nombre d'entre eux ont souligné aussi évidemment ce dont on parlait, c'est-à-dire cette sorte d'hypocrisie, voire de condescendance des autorités françaises qui mettent en avant une sorte de gentil migrant en plein durcissement de la législation migratoire. Le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne en France a d'ailleurs rappelé que pour un Mamoudou Gassama, eh bien près de 50 000 Maliens, c'est une estimation, seraient en situation régulière en France. 3 000 d'entre eux seraient d'ailleurs menacés d'expulsion, alors que nombre de ces Maliens travaillent en France depuis longtemps.
Ouais, on parle de choses compliquées, difficiles. Il y a aussi une autre manière d'en parler, c'est avec de l'humour.
Alors, de l'humour par dérision ou par dépit, difficile à dire, mais en tout cas, les détournements fleurissent sur les réseaux sociaux, et notamment de la part d'Africains, comme quelques exemples, ces Burkinabés qui se sont affichés en photo portant des boubous traditionnels revisités aux couleurs et aux emblèmes de Spider-Man, Batman, Superman, avec cette légende « La France prépare les papiers, on arrive », ou encore cet Ivoirien qui, lui, s'entraîne à l'escalade sous le hashtag « Gassama Challenge », ou encore enfin cette photo d'un jeune enfant qui lui escalade un mur, c'est un tout petit gamin, et la légende dit là, eh bien chez nous les Touaregs, on est au nord du Mali, chez nous les Touaregs, pas besoin de sauver les bébés, ils sont déjà gassamatisés.
Bon, Silvano Mendes, revenons à ce qui s'est passé donc en début de semaine. Ce n'est pas la première fois que des étrangers vivant en France bénéficient d'une régularisation ou d'une naturalisation accélérée.
Non, justement, il y a eu quelques-uns, mais c'est plutôt rare. En 2002, Nfamara Bangoura et Mustapha Keïta, deux Guinéens qui vivaient illégalement en France, ont eu leurs papiers après avoir sauvé de la noyade un jeune handicapé. Ils n'ont pas eu la nationalité directement, mais ils ont pu bénéficier de la régularisation de leur situation avec un titre de séjour accordé par la préfecture. En 2014, c'était le tour de Mohsen Oukassi et de Mohamed Kaderni, deux Tunisiens sans papier, d'obtenir la régularisation de leur situation et une autorisation de séjour en France après avoir sauvé leur voisin d'un incendie à Aubervilliers.
Et puis, il ne faut pas oublier Lassana Batilim, celui qui est, qu'on avait appelé le héros de l'hypercachère.
Oui, tout à fait. Il y a eu ces jeunes Maliens qui travaillaient au supermarché Hypercacher de la porte de Vincennes à Paris et qui a aidé à sauver plusieurs personnes lors de la prise en otage de novembre 2015. Il a reçu ses papiers français au cours d'une cérémonie qui était très médiatique en présence de Manuel Valls, qui était le Premier ministre à l'époque, et de Bernard Cazeneuve, qui était le ministre de l'Intérieur. En revanche, dans le cas de le héros de Hypercacher, comme on a pris l'habitude de l'appeler, la cérémonie de remise de papier a eu lieu 11 jours après la prise d'otage, et pas le lendemain, comme c'était le cas de Mamoudou Gassama. C'est peut-être la vitesse de la réaction du gouvernement français qui a suscité ces quelques accusations de récupération politique.
Voilà pour cela. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Bienvenue à cet informatif de Radio France.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par les rédactions langues étrangères de RFI. Pour ce qui est de la rédaction anglophone, eh bien, c'est cette affaire de corruption qui touche le Service national pour la jeunesse au Kenya. Laura Martel, il y en a pour près de 80 millions d'euros.
Alors oui, d'abord un petit mot de présentation de ce Service national pour la jeunesse, le National Youth Service en anglais, qui est une agence d'État en fait qui forme de jeunes volontaires et les fait travailler dans des domaines qui vont de la sécurité publique au bâtiment, en passant par des programmes de réhabilitation de bidonvilles. Et bien cette semaine, donc, 24 personnes ont été inculpées, notamment pour détournement de fonds publics, et ce sont pour la plupart des fonctionnaires. Alors il y a notamment un haut responsable du ministère de la Jeunesse, encore le directeur de cette agence, mais aussi des fournisseurs privés, et ils sont accusés d'avoir effectivement produit ou gonflé des factures, et bien de manière éhontée.
Alors des fausses factures gonflées, dites-vous, donnez-nous quelques exemples.
Et bien selon la presse locale, une entrepreneur aurait touché plus de 580 000 euros pour une fourniture de nourriture ou encore d'outils, mais n'aurait tout simplement et bien rien livré en échange. Autre exemple, 8,5 millions d'euros auraient soi-disant été dépensés en viande de bœuf pour nourrir ses volontaires pendant un an. Problème, cela voudrait dire que chaque volontaire mangerait plus de 65 kilos de bœuf par jour.
Même en ayant très 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 faim.
Voilà, c'est quand même pas mal. Alors bon, les 24 inculpés ont quand même plaidé non coupable, mais cette affaire en fait ne fait que commencer, d'autant que le procureur a déjà cité une trentaine d'autres personnes dans ce scandale, et il dit aussi vouloir s'attaquer à une dizaine de banques par lesquelles les fonds suspects auraient transité.
Alors c'est un nouveau scandale, nouveau bah parce que c'est loin d'être le premier au Kenya.
Non, et notamment en ce qui concerne les entreprises et les agences publiques du pays. C'est ce que souligne Sheila Machinde, elle travaille pour Transparency International au Kenya.
The level of corruption is quite high. Right now we're dealing with a lot of scandals that have come out.
Que dit-elle ?
Alors elle cite toute une litanie d'allégations de corruption justement ces derniers mois qui concernent un bureau national en charge des produits agricoles ou encore la compagnie d'électricité ou encore la compagnie nationale en charge des pipelines. Elle souligne aussi que 83% des Kenyans estimaient en 2017 que le niveau de corruption dans leur pays était très élevé, et ce que confirme d'ailleurs le classement de Transparency lui-même pour cette même année 2017 dans lequel le Kenya se place 143e sur 180 pays.
Ce n'est donc pas la première affaire de corruption au Kenya, ce n'est pas non plus la première fois que ce service national pour la jeunesse est mis en cause.
Eh ben non, déjà en 2015, 24 personnes avaient été accusées d'avoir détourné 6 millions d'euros, alors c'est quand même 10 fois moins que le scandale actuel, mais c'était déjà une somme. Et lors du procès qui a eu lieu au début de cette année, eh bien toutes ces personnes, sauf une seule, ont été acquittées, faute de preuves, et c'est bien là l'un des problèmes dans la lutte contre la corruption, souligne Sheila Machinde. Alors, bien sûr, elle se réjouit des inculpations qui ont en cours dans l'affaire actuelle. Une offensive anticorruption qui tient notamment, dit-elle, à la nomination récente par le président Kenyatta de nouveaux responsables au niveau de la police comme de la justice. Mais pour cette militante, eh bien, arrestation et inculpation ne servent absolument à rien, bien sûr, si elles n'aboutissent pas finalement à des condamnations et puis surtout à des restitutions de fonds. Alors certes, le président Uhuru Kenyatta a promis de lutter contre la corruption qu'il a carrément qualifiée de menace contre la sécurité nationale, mais jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de discours et peu de résultats, dit Sheila Machinde, et on estime quand même que le Kenya perd chaque année l'équivalent du tiers de son budget à cause de la corruption.
Laura Martel, de la rédaction en anglais de RFI. Le Brésil est en partie paralysé depuis une dizaine de jours maintenant à cause d'un mouvement de grève des camionneurs. Les chauffeurs routiers contestent la politique des prix de l'essence mise en place par le géant Petrobras. Silvano Mendes, à la rédaction brésilienne, vous avez donc suivi de près cette situation et qui s'aggrave.
Oui, parce que comme vous l'avez bien signalé, le Brésil était au ralenti et par endroits carrément à l'arrêt complet. Dans un pays où les réseaux ferrés est très insuffisant et presque tout se transporte par les autoroutes, il suffit que les camionneurs bloquent les routes pour que le pays s'arrête. Pour empirer la situation, les salariés du secteur pétrolier ont rejoint le mouvement de contestation. Ils réclamaient une réduction des prix des carburants et du gaz, mais aussi la démission de Pedro Parente, le président de la compagnie pétrolière publique. Après des difficiles négociations, le président brésilien Michel Temer a fini par céder à une partie des revendications et les chauffeurs routiers ont commencé à libérer les autoroutes. Quant au président de Petrobras, il vient de démissionner et les actions du géant pétrolier sont en chute libre depuis quelques heures et affichent moins 14 points sur la bourse de Sao Paulo.
Et cette grève s'ajoute à la crise politique qui dure, elle, déjà depuis plus longtemps, plusieurs mois.
Oui, justement, et ces mouvements de grève se sont complètement invité à cette crise politique brésilienne dans les rues et parmi les grévistes. Au-delà de revendications, il y avait surtout des slogans contre le président Michel Temer, mis au pouvoir, je vous rappelle, après le processus de destitution de la présidente Dilma Rousseff, issue du Parti des Travailleurs. Il faut dire que la majorité de la population soutient cette grève, ce qui montre que le conflit social cache aussi une sorte d'insatisfaction généralisée des Brésiliens.
Insatisfaction, exaspération, on peut même dire, qui fait que certains Brésiliens souhaiteraient une intervention de l'armée.
Oui, c'est là que la situation devient préoccupante. Depuis le début du mouvement de grève, plusieurs groupes demandent cette intervention militaire. Le président Temer lui-même, la semaine dernière, semblait tellement dépassé par les grèves qu'il a envoyé l'armée pour débloquer les autoroutes. Ce n'est pas la première fois. Temer a aussi fait intervenir l'armée pour essayer de contrôler la violence à Rio de Janeiro il y a quelques mois, sans oublier que le nombre de militaires nommés à des postes de ministres au Brésil ne cesse pas d'augmenter. Nous renvoie à une période très sombre de l'histoire du Brésil, pays que, je vous rappelle, a vécu sous la dictature militaire pendant plus de 20 ans, entre 64 et 85. D'ailleurs, cette semaine, la présidente de la Cour suprême, Carmen Lúcia, a réagi à ces demandes d'intervention militaire. On l'écoute.
Régimes sem direitos são passados de que não se pode esquecer.
Quelle est la teneur de l'annonce de Carmen Lúcia?
Alors, elle dit que les régimes sans droits civiques font partie d'un passé que le Brésil ne doit pas oublier, mais pour elle, il n'y a pas de chemin possible. La démocratie est la seule voie légitime, a dit Carmen Lúcia.
En quelques mots, comment réagissent les militaires à cette situation? Est-ce qu'ils ont des velléités de reprendre la situation en main?
Alors, je ne sais pas dire si c'est positif ou pas, mais les militaires ne semblent pas très emballés par l'idée de prendre le pouvoir, de mener une sorte de coup d'État, comme certains ont pu le suggérer. Il y a eu même des chefs des militaires qui ont dit que c'est une idée complètement dépassée, que les élections, c'est la meilleure solution au Brésil.
Merci Silvano Mendes de la rédaction brésilienne de RFI. Et maintenant, avec la rédaction persane, nous nous intéressons à l'émotion suscitée en Iran par le décès d'une superstar iranienne, Nasser Malek Motehi, qui était un grand du cinéma iranien des années 60 et 70, Zadeh Vala.
Oui, il s'appelle Nasser Malek Motehi. Il est mort à l'âge de 88 ans à Téhéran le 25 mai dernier. Il est l'une des figures emblématiques du cinéma iranien d'avant la révolution. Dimanche dernier, ses obsèques ont donné lieu à d'immenses élans de ferveur populaire. Des dizaines de milliers de personnes lui ont rendu un hommage populaire. À Téhéran, à la Maison du cinéma, des cinéastes et des acteurs ont pris la parole afin de rendre en présence des masses un ultime hommage à l'un des acteurs les plus populaires du cinéma iranien.
Et vous avez d'ailleurs recueilli une réaction en forme d'hommage.
Effectivement, le cinéaste et l'acteur iranien Zakaria Hashemi, émigré en France depuis 1984, dit à RFI, rédaction
persane. Que dit-il?
Je l'ai toujours dit, pour un acteur, le cinéma est comme l'eau pour poisson. Une fois sorti de l'eau, le poisson va mourir. Nasser Malek Motehi est mort il y a 40 ans.
Depuis quand et pourquoi cet acteur était banni du cinéma?
Il est banni du cinéma depuis environ 1981 sous prétexte que sa personnalité et les films et séries dans lesquels il a joué étaient porteurs d'une conception du monde menaçant l'idéologie et la morale islamique et qu'ils incarnaient une époque corrompue. En 1980, il a joué dans un film iranien avec trois autres stars, mais la sortie du film a provoqué beaucoup d'indignation de la part de certains révolutionnaires, parmi eux le fameux réalisateur Mohsen Makhmalbov, qui était à l'époque l'un des membres du centre artistique de l'organisation des propagandes islamiques.
Et il n'a pas été le seul à pâtir de la révolution islamique en 1979, hein?
Oui, à cette époque, le cinéma iranien se voit privé de producteurs, réalisateurs et acteurs. Parmi ceux qui sont restés en Iran, certains sont emprisonnés et libérés plus tard. En somme, de nombreux acteurs sont interdits de jouer au cinéma et sont condamnés à l'isolement. À partir de 1981, certains révolutionnaires et autoritaires de la République islamique comme Mohsen Comir Hossein Moussavi, le premier ministre du moment qui est maintenant assigné à la résidence, et aussi Mohamed Khatami, l'ex-président et le ministre de la Culture et de l'Organisation islamique du moment, disent que des cinéastes et acteurs qui sont opposants au régime ou qui ont joué dans des films qui allaient à l'encontre des valeurs islamiques doivent être bannis du cinéma, même les repentis.
Et bien évidemment, sur le site internet de la rédaction Personne de RFI, bien d'autres éléments à propos de la mort donc de ce cinéaste iranien. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.